VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre le groupe État islamique en Libye. Les forces pro-gouvernementales libyennes ont annoncé aujourd'hui avoir repoussé une nouvelle contre-offensive du groupe État islamique dans son fief à Sirte, où les djihadistes sont quasiment encerclés. L'EI a tenté d'éliminer des positions contrôlées par les milices du gouvernement d'Union nationale libyenne dans le secteur ouest de la ville, qui est situé, rappelons-le, à 400 km à l'est de Tripoli et dont une grande partie a déjà été reconquise depuis le 9 juin. Les djihadistes ont utilisé un char, des mortiers et des snipers, a indiqué un communiqué des forces pro-gouvernementales libyennes qui disent avoir stoppé cette attaque. En Guinée-Bissau, brève décrispation de la situation politique, les députés bissau-guinéens se sont réunis mardi après quasiment deux mois d'interruption en raison d'une crise entre le président José Mario Vache et le chef de son propre parti, Domingo Simões Pereira. Les détails avec Idriss Fall.
C'était la première séance de l'Assemblée depuis le 19 avril, mais aussi la dernière session parlementaire. Elle n'a duré que 10 minutes et il n'y a pas eu de débat. Le vice-président de l'Assemblée, Inácio Correia, du PAIGC, le premier parti politique, a déclaré que le Parlement est en train de se transformer en un instrument manipulé par une force obscure. Les députés du PRS, parti d'opposition, et les 15 dissidents du PAIGC ont rétorqué. C'est de la dictature. Le président José Mario Vaz compte sur l'opposition et les dissidents pour avoir une majorité alternative soutenant le gouvernement du tout nouveau Premier ministre Bassirou Dia. Depuis la destitution par le président Vaz en août 2015 de son Premier ministre Domingo Simões Pereira, chef du PAIGC, dont ils sont tous les deux membres, la Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques qui ont conduit à une paralysie totale de l'Assemblée nationale. Et aucune date n'est annoncée pour la prochaine session parlementaire.
Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko a été retenu par la Direction générale de surveillance du territoire, DGST, après son audition qui avait débuté hier à 11h, heure locale. Assigné en résidence depuis plusieurs semaines, M. Mokoko conteste la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Guy Romain Kinfoussia est le vice-président et porte-parole de la plateforme Frocad UDC, la coalition de l'opposition dont M. Mokoko est membre. Ses explications au micro d'Éric Manirakiza.
Il est allé pour être auditionné sur l'affaire que tout le monde sait et normalement il devrait rentrer chez lui, mais ce n'est pas le cas. Il est retenu à la direction générale de la surveillance du territoire. Ça ne correspond pas à une arrestation au vrai sens du mot, mais il n'est pas libre de ses mouvements. Nous allons voir quelles sont les nouvelles que la DGST va nous donner. Mais il n'est pas rentré chez lui.
Et quelles sont les charges qui sont retenues contre lui?
Je ne peux pas vous le dire. Je rappelle simplement que Jean-Marie Moukoko a été candidat à la présidence de la République et que pour être candidat, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Et celui qui en est le garant, c'est la Cour constitutionnelle. Bon, nous savons que cette Cour constitutionnelle est aux ordres. Mais au moment où la Cour constitutionnelle a donné son avis sur les candidatures déposées, l'affaire qu'on reproche aujourd'hui à Jean-Marie était déjà initiée et la Cour constitutionnelle n'a pas estimé important de considérer cette affaire qui était vide. C'est pour ça qu'il lui a donné l'autorisation d'être candidat. Nous sommes surpris aujourd'hui, l'élection présidentielle étant passée, que le candidat Jean-Marie-Michel Mokoko ayant obtenu le score que tout le monde sait, qu'on vienne lui demander de reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso. Ce à quoi il se refuse. Je crois que c'est ça le motif principal. Mais ce n'est pas l'affaire de la vidéo qui date de 2007. Nous avons juste la possibilité de faire des recours les plus légaux qui soient pour que Jean-Marie Mokoko retrouve toute sa liberté parce que ce monsieur, de mon point de vue, n'est coupable d'aucun délit.
Guy Romain Kinfoussia, joint à Brazzaville. Dialogue politique en RDC, le facilitateur Idem Kodjo annonce la mise en place d'un groupe de soutien à la médiation qui sera composé des organisations internationales et aussi de l'ambassadeur de l'Union africaine. Idem Kodjo a par ailleurs annoncé qu'il sera à Bruxelles pour y rencontrer des opposants qui ont pris part au récent conclave de l'opposition, notamment le leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. On écoute Edem Kodjo au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les gens estiment que le facilitateur a été trop patient, mais je crois d'abord que la qualité première d'un facilitateur, c'est la patience. Comme le grand poète antillais Aimé Césaire l'a dit, j'ai une patience à boire toutes les eaux du Congo. Donc, il faudra que tout le monde mette de l'eau dans son vin pour qu'on aille de l'avant. Je vais faire un déplacement à Bruxelles pour, une fois de plus, m'assurer que tout est mis en œuvre pour que nous démarrions les travaux du comité préparatoire. On n'a pas fini de parler de la même chose indéfiniment. Alors, il faut toujours remettre sur le métier l'ouvrage qu'on a commencé si cet ouvrage n'est pas achevé. Donc, il n'y a pas de honte à essayer une fois de plus. Nous verrons bien ce qu'il y a lieu de faire après. Mais je ne souhaite pas que les positions se figent et se cristallisent autour de pôles irréductibles. Mais je souhaite que plus de mou soit apporté dans les différentes positions que l'on exprime ici et là.
Edem Kodjo, facilitateur dans la crise politique en RDC.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Course à la Maison-Blanche ici aux États-Unis. La campagne des primaires américaines est finalement terminée après le dernier scrutin hier à Washington, la capitale fédérale. Élection remportée par Hillary Clinton face à son rival démocrate Bernie Sanders. La prochaine étape, les conventions de juillet à Cleveland et à Philadelphie où les candidats probables des deux partis, Mme Clinton et le républicain Donald Trump, seront investis. Et toujours ici aux États-Unis, Hillary Clinton a fustigé le rôle de l'Arabie Saoudite, du Qatar et du Koweït dans le financement mondial de l'idéologie extrémiste. Madame Clinton a tenu ses propos au lendemain de l'attentat d'Orlando dans l'État de Floride qui a fait 49 morts, plus le tueur Omar Mateen abattu par la police. Les trois pays mentionnés font pourtant partie des alliés des États-Unis. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, l'ambassadeur Herman Cohen.
J'ai été pas surpris parce que déjà, nous avons commencé à voir dans les journaux comme le New York Times des articles qui parlent de financement de terrorisme. Mais il ne faut pas croire que ce sont ces gouvernements qui financent le terrorisme. Mais il y a des hommes d'affaires, des gens riches dans ces trois pays-là qui font ça. Ils financent le terrorisme, ils donnent du cash. Et Mme Clinton parle surtout de ça. Ils regardent, les gens continuent à faire ça et les gouvernements ne font rien. Donc, c'est une mauvaise situation.
Elle a dit ces trois pays et d'autres devraient cesser de soutenir les écoles et les mosquées radicales qui ont conduit trop de jeunes sur le chemin de l'extrémisme dans le monde.
Oui, elle a raison de dire ça. Moi, j'ai vu ça en Afrique de l'Ouest, où j'ai passé certaines années dans ma carrière comme diplomate. Les missionnaires d'Arabie Saoudite ou de Qatar, ils viennent là-bas. Ce sont des pays musulmans. Et ils disent aux imams, votre islam n'est pas bon. Il faut que vous soyez comme nous. Et ils donnent de l'argent pour la construction des mosquées. Et ils envoient des imams. Et c'est comme ça que la radicalisation commence. En Afrique de l'Ouest, les musulmans sont très tolérants. Ils célèbrent le Noël même. Mais quand ces gens viennent de l'Arabie Saoudite, ils radicalisent les imams, ils donnent de l'argent. Donc, c'est très dangereux, ça.
Est-ce que vous pensez, une fois la Maison-Blanche, qu'elle aura, disons, les moyens de faire appliquer cette position?
J'ai vu que les journalistes ont posé des questions au président Obama. Il a dit que c'est compliqué. C'est-à-dire que ces pays-là sont des alliés au Moyen-Orient. Ils luttent contre les rebelles au Yémen. Ils luttent contre le président de la Syrie. Donc, ils sont nos alliés. Donc, c'est difficile de critiquer nos alliés. Ils donnent de l'argent pour aider certains groupes que nous aidons. Ils achètent nos avions. Ils payent beaucoup d'argent. C'est très difficile. Je crois que ce sera au prochain président de trancher là-dedans. Et c'est possible que ce sera Hillary Clinton.
Quelle est l'approche qu'elle devra adopter?
Je crois qu'il faut commencer à être dur avec ces gens-là. Ces pays existent sous la protection des États-Unis. Ils sont en danger. C'est une région dangereuse parce qu'il y a l'Iran, qui est un pays chiite, qui n'aime pas les soumis. Donc, il faut qu'on commence à être dur avec ces gouvernements.
L'ambassadeur Herman Cohen, ex-secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, joint à Washington par Eric Manirakiza. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Alors, lady.